Tristan de Rême, le dernier centaure. Avec 5 ou 6 de nos amis, au fond de la province où les oiseaux chantent dès qu'il cesse de pleuvoir, nous passerons quelques semaines dans cette maisonnette où j'ai vécu dans mon enfance déjà lointaine. Et je vous dirai que dans ces prairies, nous sommes heureux. S'il était aucun lieu du monde où les hommes fussent assez sages pour rencontrer le bonheur. Je ne vous étonnerai pas beaucoup si je vous confie qu'à la ville, nous ne rêvons que de la campagne. Et déjà, vous me direz qu'en ces vallons où nous sommes, Paris et ses tourbillons ne cessent de nous paraître lointains. Il nous faudrait, pour notre joie, que la campagne fût en ville, où l'avenue des Champs-Élysées et au beau milieu de ces étendues de maïs, qui étaient vertes à notre arrivée et qui seront toutes dorées le jour de notre départ. Ne croyez pas du tout, par conséquent, que nous ayons envie de rejoindre ce matin le train pour revoir les quais de la Seine. Non ! Certes, cela serait laisser nos coteaux. Il nous faut tout, vous dirais-je. Et parfois, monsieur Lalouette, pour se moquer de nous comme de lui-même, fredonne cette chanson béarnaise. Plaignez, s'il vous plaît, notre forgeron, dont la bourse est vide et le cœur amer. Quand il a du fer, il est sans charbon. S'il a du charbon, il manque de fer. Mais M. Théodore de Lalande, avant-hier, à l'heure du qu'incertaine du crépuscule, se plaignait sur l'herbe que n'apparut point un kiosque auprès du cerisier et que nous fut permis d'acheter les journaux du soir. Tac! On a déjà dit que l'homme est insatiable, et l'on peut se hasarder à penser qu'on le dira longtemps encore. Mais en quel vaine remarque suis-je sur le point de m'égarer quand je songe que c'est ici que se cabrait jadis le dernier des centaures. Il ne faut s'étonner de rien, et la sagesse et les poètes nous enseignent que s'il est vrai que, pour peu que l'on se prenne à méditer, il n'est rien qui ne soit en possession de nous surprendre, de nous faire ainsi perdre du temps. Et d'abord, notre présence sur ce quasi-globe qui tourne sur lui-même et roule au mystère de l'espace qui paraît ne plus avoir de bornes. Mon oncle, quand j'avais 6 ans, allait au fond dans les bois voisins qui s'étendent jusqu'en Espagne. Il avait fait connaissance d'un centaure. Mon oncle chassait très loin de sa maisonnette et tout à coup, au retour d'un sentier assez obscur, sous les hêtres, il s'était trouvé, nez à nez, si je puis dire, car l'autre portait la tête fort haute, avec ce centaure qui, par quelque permission des dieux, continuait à fouler le sol d'un quadruple sabot. Le monstre se montra courtois, tandis que mon oncle ne lui laissait voir son inquiétude, mais ils causèrent longtemps et mon oncle le pria de venir dîner quelques jours chez nous. « Je consens volontiers, vous en remercie, » répondit le centaure. « Mais je ne saurais frapper à votre porte qu'à la nuit tombée, pour repartir avant l'aurore, car les hommes sont méchants. S'ils devaient m'apercevoir, ils ne manqueraient pas de me tendre des pièges pour me capturer et me montrer ensuite aux curieux dans quelque mélancolique baraque foraine. » C'est ainsi que le centaure vint souvent dîner dans cette maison dont je vous écris. En raison de mon jeune âge, j'étais déjà couché quand il ouvrait la grille et je dormais encore à l'instant qu'il gagnait les bois. Mais mon oncle me disait tout et j'ai sur ces soirées des souvenirs si précis que je me demande parfois s'il ne m'est pas arrivé deux ou trois fois de dîner avec le centaure. J'étais tout ébloui de ce grand homme cheval qui me souriait et qui, si je n'ai point rêvé, me tapotait les joues d'une main puissante mais légère. Il m'enchantait. Nous dînions à l'étable. Il le fallait bien. C'est là que, sur un beau tapis, à quelque part des bœufs étonnés, l'on dressait la table dont le monstre bienveillant occupait des grands côtés. Il pouvait de la sorte étendre son vaste corps velu sur la paille et sur les coussins, et ne montrant que son buste au-dessus de la table. Il prenait tous les mets, comme nous, mais après le dessert, il demandait de l'avoine et une botte de foin qu'il dévorait avec plaisir. « J'ai deux corps, » disait-il. « Encore qu'ils soient unis, je ne dois négliger ni l'un ni l'autre. » Et au bout de quelques mois, mon oncle lui demanda s'il ne lui plairait pas de vivre à la manière des hommes. « Je ferai les démarches, » dit-il à notre invité. « Je ne doute pas que vous soyez agréé promptement. Vous deviendrez l'un des nôtres. » Vous serez inscrit à la mairie du village. Et vos pareils, qui sont en effet assez barbares, ne trouveraient plus ainsi, seraient bien empêchés de vous causer quelque ennui. Enfin, avant de mourir, je voudrais vous voir adjoint au maire ou maire. Et je mettrais une jaquette pour les mariages. Dit le centaure en riant. Non, vous savez comme je me plais chez vous. Je viens souvent en secret. Mais le sort des hommes n'a point pour moi de très grand charme. Ce foie gras dont vous m'avez fait goûter et qui était délicieux. Songez au nombre d'hommes qui ont travaillé depuis celui qui garde les oies jusqu'à celui qui a soudé la boîte. Je ne parle pas ici des transporteurs pour qu'ils puissent enfin apparaître dans votre plat de porcelaine. Et je pourrais dire autant de tout ce qui est sur votre table, de vos vêtements, de vos maisons, et enfin de tout ce qu'il y a autour de vous. Je vis seul, moi. Une grosse branche que je coupe est mon arme habituelle, car je n'use que rarement de ces flèches que je taille moi-même pour abattre les lièvres qui me servent de nourriture, ou parfois un furieux marcassin. Et je me repais d'herbes roses et toutes brillantes de rosée dans les délices de l'aurore. Je joue continuellement ma vie. Et si je n'avais point de gibier, je mourrais de faim. Mais c'est lorsqu'il me plaît, c'est ce risque qui me plaît et qui me fait mieux bondir et me cabrer dans les belles clairières silencieuses. L'incertitude de nos jours et de mes nuits n'est pas moins agréable que mes chasses et que mes proies. Oh, c'était un joueur. Oh, il nous parla longtemps encore, et je songe maintenant à nous qui nous plaignons sans cesse de tout ce qui nous manque, ainsi que je vous le proposais tout à l'heure. Voulez-vous vous armer d'un gros bâton pour vivre dans la forêt? Vous me répondrez que vous n'êtes pas de ces centaures qui sont tous fils d'un nuage et que vos jours sont assez pleins de risques.